Chapitre 7. Roger se réveilla le lendemain matin, maussade et triste. Il voulut se rendormir, mais il se tourna et se retourna sur son lit sans pouvoir fermer les yeux. Ce qui s'était passé la veille, ce qu'il avait entendu, l'insouciance de Madame d'Arverne, l'inquiétude du jeune Baudrimont, tout cela s'agitait confusément dans sa tête troublée. Enfin, il se leva, se demandant à quoi il allait employer sa journée. Il n'avait plus à chercher Savine, il savait. Et même ce que Savine pourrait lui dire ne ferait qu'irriter sa méchante humeur au lieu de l'adoucir. Il ne tenait pas à ce qu'on lui racontât les amours de Madame d'Arverne avec le vicomte de Baudrimont, ce que Savine ne manquerait pas de faire, bien certainement. L'idée lui vint de s'en aller tout de suite à Paris, maintenant qu'il n'avait plus à s'inquiéter de ce qu'il attendait. En réalité, ce qu'il attendait, c'était... rien. Qui trouverait-il à Paris? Personne, excepté Arly. Ses anciens amis n'étaient plus à Paris à cette époque. Et puis, devait-il reprendre avec ses amis l'existence qu'il menait avant son départ? Il en avait tristement exploré le vide. Où cela le conduirait-il? Quelle solitude en lui et autour de lui? Pas de famille. La seule femme qu'il eût eu du bonheur à revoir, sa cousine Christine, était au couvent. Des amis qui méritaient à peine le titre de camarades de plaisir. Un grand nom, une belle fortune dont il avait enfin la libre disposition et rien à désirer, aucun but à poursuivre, car il ne pouvait pas songer à rentrer au ministère et à demander un poste quelconque dans une ambassade, puisque M. d'Arverne était toujours ministre et que, s'adresser à lui, c'eût été en quelque sorte demander le paiement du sacrifice qu'il avait accompli. N'y avait-il donc pour lui d'autre avenir que de reprendre ses habitudes d'autrefois, d'autres plaisirs que ceux qu'il avait épuisés, d'autres émotions que celles du jeu? Ne rien faire. Avoir pour maîtresse des filles. Passer de Balbine à Cara, de Cara à Raphaël, et toujours ainsi. Il se sentait né pour mieux que cela, cependant. Ce qu'il avait le plus lourdement accablé dans ce voyage, ça avait été son isolement. Plusieurs fois, il avait été en danger, et alors il avait eu la pensée désespérante qu'à ce moment même, personne ne prenait intérêt à lui et qu'il pouvait mourir sans qu'on le pleurât. On dirait « Si jeune, le pauvre garçon !» et ce serait tout. Plusieurs fois aussi, il avait eu des heures, des journées de plaisir, des élans d'admiration et d'enthousiasme, et alors il n'avait jamais pu reporter sa joie sur personne et se dire « Si elle était là !» ou bien « Je lui conterai cela !» C'était seul qu'il avait souffert, c'était seul qu'il avait joui. Pourquoi ne se marierait-il pas? De famille, il n'aurait jamais que celle qu'il se créerait. Il se sentait dans le cœur des trésors de tendresse à rendre heureuse, sans une heure de lassitude ou d'ennui, la femme qu'il aimerait et qu'il aimerait, l'honnête femme qui serait la mère de ses enfants. Quand on avait l'honneur de porter un nom comme le sien, c'était un devoir de ne pas le laisser s'éteindre. Et puis, n'était-ce pas le seul moyen d'empêcher, sinon sa fortune, au moins son titre et son nom, de tomber aux mains de ceux qui se disaient sa famille, ces condrieux rebelles exécrés, qui n'étaient que ses ennemis après avoir été ses persécuteurs. C'était devant sa fenêtre ouverte, assis dans un fauteuil et regardant machinalement le jeu de la lumière dans les branches des arbres, qu'il réfléchissait ainsi. Tout à coup, la brise lui apporta le prélude d'une valse que jouait une musique militaire. Il écouta un moment, puis vivement il se leva. L'image de la jeune fille blonde qu'il avait vue la veille et à laquelle il n'avait plus pensé venait de se dresser devant lui, évoquée par cette musique, et il la retrouvait aussi éblouissante de beauté et de charme qu'elle lui était apparue la veille.